E-Radio, l'invité de la rédaction, Juan Barceló Moyano.
À New York, une semaine intense de diplomatie vient de se finir. La 77e Assemblée générale de l'ONU a réuni et donné la parole à plus d'une centaine de leaders internationaux. Les enjeux n'étaient pas peu nombreux. La guerre en Ukraine, bien sûr, au centre du débat, mais pas que. Gilles-Emmanuel Jacquet, vous êtes analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, quel bilan pour cette Assemblée générale? Le multilatéralisme est-il toujours en plein fonctionnement?
Justement, les différents discours qui ont été faits à l'Assemblée générale des Nations Unies montrent qu'on a une crise, c'est pas seulement la crise ukrainienne, mais une forme de crise du multilatéralisme, une crise au sein de l'ONU, et on pourrait même dire une crise finalement de la diplomatie, tant on voit qu'il est difficile, notamment pour les puissances du Conseil de sécurité, de pouvoir trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine. Et c'est ce qui a été reflété dans les discours de plusieurs ministres des Affaires étrangères ou de chefs de gouvernement ou de chefs d'État.
Est-ce que dans cette crise, on peut donc faire une lecture de blocs? C'est un peu un retour au bilatéralisme de la guerre froide?
Oui, alors c'est quelque chose qu'on a entendu assez fréquemment, qu'on a un retour au contexte de la guerre froide, dans le sens qu'on a effectivement à nouveau un affrontement entre blocs. Ceci dit, c'est un contexte qui est assez différent de celui de la guerre froide, puisque le monde actuel n'est plus vraiment basé sur un système réellement bipolaire. Nous avons au contraire un système multipolaire, mais il est vrai qu'il y a parfois des difficultés à réellement s'établir, puisqu'on voit encore une tension entre finalement la volonté des BRICS de voir ce multilatéralisme et ce multipolarisme reconnu, et de l'autre, une tentation, on pourrait dire, unilatéraliste de la part des États-Unis lorsqu'ils évoquent le leadership américain.
Et dans ces jeux d'influence et de rôle, l'Union européenne, que peut faire elle? S'aligner toujours avec les États-Unis, essayer d'avoir sa propre voix face à ces BRICS?
C'est une question assez importante finalement. Que peut faire l'Union européenne? L'Union européenne avait été conçue au niveau stratégique et diplomatique finalement comme une puissance, on pourrait dire, qui a une position alternative par rapport aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on avait plus ou moins observé au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, même si en vérité, certains États de l'UE étaient déjà du côté finalement de l'invasion américaine. L'UE se cherche finalement une position, on pourrait dire intermédiaire, une voie à part, mais force est de constater que depuis le début de la crise ukrainienne en 2014, l'Union européenne a plutôt suivi les États-Unis et les propositions faites par l'Union européenne, notamment au moment de la crise du Maïdan, ces propositions n'ont pas été suivies ou promues par les États-Unis.
Dans le contexte justement de la crise de la guerre en Ukraine, maintenant une bonne partie des efforts diplomatiques de la partie occidentale se concentre sur isoler la Russie et faire des pressions sur les États qu'on pourrait dire les non-alignés. Est-ce que cette pression peut être efficace?
Non, je crois que la pression que certains pays, et notamment la France, veulent effectuer sur la Russie et ses alliés, ce n'est pas très efficace, un peu à l'image finalement des sanctions qui ont été adoptées. On a vu que la Russie, notamment au moment du Forum économique de Saint-Pétersbourg, avait pu avoir à ses côtés plus d'une centaine d'États de l'ensemble de la planète. Et lors de l'Assemblée générale, on a vu aussi à plusieurs reprises, eh bien, les pays africains montrer une forme de soutien envers la Russie ou en tout cas montrer une forme d'indifférence envers l'Ukraine ou les pays occidentaux. Donc je ne suis pas sûr que les stratégies mises en place par les pays occidentaux contre la Russie fonctionnent puisque la Russie a de nombreux alliés dans le monde et ces mesures qui sont prises contre la Russie, elles ont un impact sur l'économie mondiale et sur l'économie européenne comme nous sommes en train de le voir.
Et face à cette sphère d'influence de la Russie, Monsieur Jacquet, pour nous en Europe, la narration, par exemple, du conflit de l'Ukraine, c'est assez clair. Il y a un agresseur et un agressé. Mais pourquoi cette narrative ne touche pas ces pays qui se montrent un peu indifférents?
Bien, il faut voir qu'un certain nombre de pays en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Asie ont eu dans leur histoire une expérience finalement négative de l'impérialisme occidental ou en tout cas des interventions occidentales, donc les États-Unis et ses alliés européens de l'OTAN, au cours des 10 ou 20 dernières années. Il y a de nombreux conflits, le Yémen, mais aussi le conflit au Congo, des conflits qui semblent, en tout cas du point de vue des gens originaires de ces régions, sont des conflits auxquels on n'accorde peut-être pas l'attention nécessaire ou on ne met pas en place des mesures nécessaires pour les résoudre. C'est ce qu'on a pu retrouver finalement aussi dans les mots du gouvernement indien, lorsque le gouvernement indien a fait comprendre que les problèmes de l'Europe ou de l'Ukraine, ce n'étaient pas les problèmes de l'Inde ou du reste du monde. Donc il y a une forme de défiance, et ça a été en particulier assez visible récemment avec la position des pays africains, de nombreux pays africains qui se tournent de plus en plus vers la Russie.
Vous avez évoqué l'Inde, il y a aussi la Chine dans les pays qui n'ont toujours pas condamné l'agression. Mais en tout cas, dans ces derniers jours, on a quand même écouté quelques discours de ces puissances-là qui appellent à la fin du conflit. Quels intérêts jouent sur ce changement d'avis?
Alors, on a souvent tendance à présenter la Chine comme une alliée indéfectible de la Russie. Ça n'est pas vrai. La Chine est plutôt un partenaire qui a des intérêts bien compris avec la Russie, que ça soit dans le domaine énergétique ou stratégique ou économique, notamment en Eurasie, en particulier en Asie centrale. Mais il ne faut pas perdre de vue que sur le conflit en Irak, sur l'intervention en Libye et sur d'autres dossiers, la Chine s'est toujours montrée finalement assez mesurée ou prudente et n'a pas nécessairement toujours soutenu la position russe. Ça peut s'expliquer aussi par les intérêts économiques que la Chine a avec de nombreux États du monde, en particulier d'ailleurs les États-Unis d'Amérique. Mais dans tous les cas, les deux grandes puissances que sont l'Inde et la Chine n'entendent pas rejoindre les pressions du bloc occidental et cherchent plutôt à avoir une attitude modérée qui soutient finalement la diplomatie. Et c'est ce qu'on a pu retrouver dans les discours faits par les Chinois et les Indiens à l'Assemblée générale des Nations unies.
Eh bien justement, la diplomatie chinoise, elle joue sur ses propres stratégies. On voit des efforts pour élargir sa zone d'influence en Afrique, en Amérique du Sud. Est-ce que cette puissance diplomatique a-t-elle pu être constatée déjà dans l'Assemblée générale?
Oui, alors c'est une stratégie aussi que les Chinois ont mis en place au moment, il y a plusieurs années déjà, au moment de leur projection en Afrique et plus généralement sur le continent eurasien. Il y avait l'idée que l'économie, notamment le projet de la One Belt, One Road Initiative, hein, cette nouvelle route de la soie, ça allait rapprocher de nombreux États de la Chine, que l'assistance aussi, la construction d'infrastructures ou l'assistance financière ou les crédits fournis par la Chine à de nombreux pays africains, ça allait rapprocher ces derniers de Pékin et ça permettrait à Pékin finalement de disposer d'un réservoir de soutien, on pourrait dire, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est quelque chose qu'on a pu effectivement bien observer à l'ONU récemment.
Vous avez dit, Monsieur Jacquet, spécialiste en relations internationales, que les Chinois cherchent à faire de la diplomatie dans des cadres comme l'Assemblée générale. La Chine est notamment l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a de plus en plus de voix qui appellent à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on rappelle est chargé de la sécurité et du maintien de la paix au niveau international. Est-ce que cette institution elle est obsolète? Quels sont les points à améliorer?
Le Conseil de sécurité des Nations unies, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est finalement à l'image de l'époque où a été créé les Nations unies. Le Conseil de sécurité des Nations unies, ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est une image, c'est un reflet d'une image des relations internationales qui peut nous apparaître peut-être un peu démodée. Nous ne sommes plus dans la guerre froide, nous ne sommes plus dans un monde bipolaire. Il y a justement d'autres puissances émergentes, les BRICS, par exemple, et d'autres, hein, des pays africains comme par exemple aussi le Nigeria. Et nous avons actuellement donc des discussions depuis longtemps à l'ONU sur le contenu des réformes, sur la manière dont le Conseil de sécurité devrait être réformé et qui justement devrait bénéficier des sièges permanents. Et là, malheureusement, on a un blocage puisqu'on a les intérêts géopolitiques, hein, des différents États qui rentrent en conflit. Par exemple, l'Inde pourrait avoir un siège permanent, hein, au Conseil de sécurité. Mais il y a des pays comme la Chine ou le Pakistan qui y sont opposés. Mais là, la question, ce sera de savoir qui dans les grandes puissances peut siéger. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'une réforme du Conseil de sécurité n'empêcherait pas nécessairement des blocages en matière de prise de décision. Je m'explique, sur certains conflits, comme par exemple sur l'Ukraine, il est évident que le Conseil de sécurité aura une grande difficulté à se mettre d'accord, puisque des pays parties prenantes dans le conflit, les Occidentaux et la Russie, eh bien finalement peuvent chacun utiliser un droit de veto pour défendre leurs intérêts. Donc la réforme, elle est nécessaire, mais ça n'est pas dit que elle empêche des problèmes à l'avenir, des problèmes qui sont liés, bah, encore une fois, aux intérêts des parties prenantes.
Eh bien, au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, on va voir comment ces multiples fronts qui sont dans les relations internationales aujourd'hui vont évoluer. Monsieur Gilles-Emmanuel Jacquet, vous êtes analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.